Laudetur Jesus Christus.
Bombardement ukrainien en territoire occupé par Moscou, mais aussi en Russie. 2 personnes tuées et 2 autres blessées selon les autorités locales. Pendant que la guerre continue de faire rage sur le front, elle percute en arrière-ligne le droit des travailleurs ukrainiens. Reportage à Kiev en début de ce journal auprès des syndicats, inquiets des conséquences à long terme sur le droit du travail. Dans ce journal, nous irons aussi en Côte d'Ivoire où s'est rendu le chef du Conseil européen. Charles Michel y a annoncé une aide européenne pour lutter contre le terrorisme. Et enfin, à 3 mois des Jeux Olympiques de Paris, l'aumônerie olympique dans les starting blocks, prête à accueillir les athlètes souhaitant un accompagnement spirituel durant les JO.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirno.
Bonjour à tous. Nouvelle mise en garde de Volodymyr Zelensky contre le risque d'incident nucléaire à Zaporijjia, occupé depuis 2 ans par l'armée russe. À l'occasion du 38e anniversaire aujourd'hui de la catastrophe de Tchernobyl, le président ukrainien a réitéré son appel pour la libération de l'immense centrale, mise à l'arrêt depuis l'automne 2022. Elle produisait avant la guerre près de 20% de l'électricité du pays. Autre conséquence plus inattendue de la guerre en Ukraine, la fragilisation du droit du travail. Quelques mois après le début de l'invasion russe, en été 2022, des lois ultralibérales ont été votées et elles ne sont pas limitées au temps de la guerre. Les syndicats ukrainiens tentent de se mobiliser contre ces nouvelles mesures, tout en apportant un soutien aux employés victimes des attaques russes. Le reportage à Kiev d'Inès Gilles.
Dans son bureau situé au centre de Kiev, Mikhailo Voinets, président de la Confédération des syndicats libres d'Ukraine, a passé toute la matinée au téléphone. La veille, un missile russe a endommagé les infrastructures minières de Mirnograd dans le Donbass, empêchant des dizaines de mineurs de sortir de la mine.
Je viens d'apprendre que tous les mineurs ont été évacués. Nous aidons les travailleurs face à la guerre et face aux réformes antisociales.
Depuis le début de l'invasion russe, les syndicats luttent sur 2 fronts, car à l'été 2022, le Parlement ukrainien a voté un premier texte controversé introduisant les contrats dits « zéro heure » qui ne garantissent aucune sécurité d'emploi ni de salaire. S'en est suivi la loi 53-71 qui soustrait les salariés des entreprises de moins de 250 employés de la couverture des accords collectifs. Roy Vyacheslav, président de la Fédération des syndicats des travailleurs des petites et moyennes entreprises, alerte. Le pouvoir en place tente de profiter du contexte de guerre pour casser le droit du travail.
Nous ne pouvons plus aider les travailleurs. Cette politique n'est pas ce qu'il faut faire si nous voulons entrer dans l'Union européenne.
Alors que les bombardements russes s'intensifient, la question du droit du travail semble secondaire. Les syndicats sont presque inaudibles. Inès Gilles, à Kiev, pour Radio Vatican.
Et puis... sur le front, on apprend que 2 personnes ont été tuées et 2 autres blessées dans des bombardements ukrainiens en territoire occupé par Moscou, mais aussi en Russie. Les forces de Kiev multiplient ces derniers mois les attaques visant les lignes arrières de la logistique des forces russes. Cette guerre de la Russie en Ukraine sera difficile sans la Chine. Déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken aux journalistes à l'issue de sa rencontre aujourd'hui avec le président chinois. Anthony Blinken a également déclaré avoir mis en garde la Chine contre ses manœuvres dangereuses près des Philippines. Plus tôt dans la journée, Xi Jinping déclarait que les pays devaient être des partenaires, pas des rivaux. Une mise en garde toutefois, de la part du président chinois. Il avertit que les multiples pressions américaines pourraient entraîner une détérioration des relations bilatérales. Autre tournée diplomatique à la une de l'actualité ces derniers jours, celle du président du Conseil européen en Côte d'Ivoire. Charles Michel a été reçu hier au palais présidentiel par le chef d'État ivoirien à la Ouattara. Au menu des discussions, la migration irrégulière et la lutte contre le terrorisme. À Abidjan, la correspondance de Mohamed Lamine.
Le président ivoirien Alassane Ouattara et le président du Conseil européen Charles Michel ont tout d'abord salué la vitalité de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, celle-ci étant le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. S'agissant de la migration illégale, Alassane Ouattara dit avoir exposé à Charles Michel ce que fait son pays en termes de mécanismes et de lutte, en prenant le soin d'évoquer la question des faux papiers, car beaucoup de migrants illégaux qualifiés d'ivoiriens par l'Union européenne ne le seraient pas en réalité selon les autorités ivoiriennes. Tout en saluant les éclairages qui lui ont été faits à ce sujet, Charles Michel a ajouté qu'il faut rester mobilisés ensemble contre les groupes criminels, c'est-à-dire les passeurs. Quant à la lutte contre le terrorisme, Alassane Ouattara a salué le soutien d'élus à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme que Charles Michel est allé voir à Jacquesville près d'Abidjan le premier jour de sa visite. Charles Michel a rappelé que l'UE a mobilisé ces 4 dernières années 570 millions d'euros pour les pays membres de l'initiative d'Accra contre le terrorisme. Il a par ailleurs annoncé que l'UE devrait mobiliser la semaine prochaine des fonds supplémentaires pour la Côte d'Ivoire pour l'acquisition de matériel dont des drones et des véhicules destinés à la lutte antiterroriste. Abidjan, Mohamed Lamine, Radio Vatican.
Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme au Burkina Faso. Dans un rapport publié hier, l'ONG accuse les forces armées burkinabèses d'avoir exécuté au moins 223 civils, dont 56 enfants, lors de deux attaques dans le nord du pays. Toujours selon le rapport, ces massacres semblent faire partie d'une campagne militaire généralisée contre des civils accusés de collaborer avec des groupes armés islamistes. Ils pourraient constituer de crimes contre l'humanité. Ces infos ont été relayées sur les ondes des plateformes numériques de anglophones basées à Ouagadougou, la BBC et Voice of America, qui se sont depuis vues suspendre pendant une durée de deux semaines. La junte militaire au pouvoir depuis septembre 2022 serre à nouveau la vis contre les médias internationaux, près d'un an après la suspension des médias français RFI et France 24. Toujours en Afrique de l'Ouest, Washington annonce retirer des soldats du Tchad quelques jours après avoir accepté de retirer leurs forces du Niger. Une centaine de soldats américains étaient déployés au Tchad contre plus de 1000 au Niger, tous deux dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Sahel. Nouveau chapitre politique en Haïti. Hier, les membres du Conseil de transition ont prêté serment. Ils sont chargés de choisir un nouveau Premier ministre et de préparer l'élection présidentielle dans les espoir d'enrayer la spirale de la violence des gangs qui a tué des milliers de personnes dans ce pays des Caraïbes. Peu avant la passation de pouvoir, le Premier ministre Ariel Henry avait remis sa démission. Jean-Charles Puzolu.
Ce conseil de transition était attendu depuis des semaines et avait été retardé en raison des difficultés de trouver un consensus sur les 9 membres représentant des principales forces politiques et du secteur privé. Ils vont maintenant s'atteler à une lourde tâche qui consiste à ramener le calme dans le pays gangréné par une violence devenue hors de contrôle, trouver un nouveau Premier ministre et enfin préparer une élection présidentielle. En attendant la nomination d'un nouveau chef du gouvernement, le ministre de l'économie de l'équipe dirigeante sortante assumera l'intérim. Michel Patrick Boisvert a déclaré que la crise haïtienne n'avait que trop duré et que le pays se trouvait désormais à la croisée des chemins. Vous devez conduire le pays à la paix, au redressement économique et social, à l'union sacrée et à la participation, a-t-il dit, aux membres du conseil de transition. Pour mener à bien sa mission, ce conseil aura jusqu'au 7 février 2026, date à laquelle un nouveau président devrait prêter serment. Haïti est dans une crise profonde depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Le degré de criticité a même empiré ces derniers mois avec l'expansion des bandes armées qui sèment la terreur au sein d'une population exténuée. Haïti est également au cœur des préoccupations du pape François. Le mois dernier, il invitait les responsables politiques à s'engager dans la construction d'un nouveau pays doté d'institutions solides.
Jean-Charles Puzolu. Elle poursuit son parcours à 3 mois des Jeux de Paris. La flamme olympique d'étape aujourd'hui au lieu emblématique de Marathon à 42 km d'Athènes. Elle sera aujourd'hui remise aux organisateurs français lors d'une cérémonie dans la capitale grecque avant d'embarquer demain à bord d'un trois mâts, direction Marseille. Pendant ces Jeux olympiques, les athlètes auront accès à un centre multiconfessionnel regroupant 5 religions, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, le judaïsme et l'hindouisme. Plusieurs aumôniers catholiques seront présents pour assurer un rôle d'accompagnement et d'écoute auprès des sportifs qui le désirent. C'est Jason Nyoka qui s'occupe de la formation de ces aumôniers. Il nous explique les liens entre pratique du sport et valeurs chrétiennes.
Ce qui est intéressant, c'est que ces valeurs du sport, elles rejoignent un peu les vertus chrétiennes. Les valeurs du sport, elles sont aussi là pour aider l'homme à tendre vers ce qu'il y a de mieux, à pousser, à le tendre vers le bien, un bien qui est assuré dans le fait que le sport est aussi un jeu. Et je pense qu'à partir du moment où on se ressent sur le fait que le sport est un jeu, est un lieu qui peut permettre de se connaître, un lieu qui peut m'aider aussi à avoir une meilleure connaissance de moi-même et à faire le bien, je pense que ce cadre-là permet de replacer le sport dans quelque chose qui porte tout homme avant tout. Et même si les Jeux Olympiques est un événement où c'est vrai qu'il y a la concurrence, il y aura forcément un gagnant et un perdant, tout ça fait partie du jeu. Et je pense que cette notion du jeu est fondamentale.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. Et puis pour finir cette édition, je vous rappelle que François a reçu ce matin le nonce apostolique auprès de l'Indonésie où se rendra le pape en septembre prochain. C'est la fin de ce journal, merci pour votre écoute. J'aurai l'immense honneur de vous retrouver à 18h pour un nouveau point sur l'actualité du pape et du monde.